La science et nous. Une émission proposée par Sylvie Vauclair.
Je suis aujourd'hui à nouveau avec Ludwig Klein, qui est astronome à l'observatoire de Meudon, Paris-Meudon, et qui est en fait radioastronome, qui travaille avec les instruments de radioastronomie de Nancy, en Sologne, entre autres, et qui s'intéresse aux particules chargées très rapides qui nous arrivent du Soleil. Et nous avons parlé la semaine dernière de la couronne solaire qu'on observe quand on a des éclipses. On va en parler un petit peu plus aujourd'hui. D'abord, des éclipses totales de soleil, on peut en voir, les gens peuvent en voir, et en particulier, on va en avoir deux l'année prochaine et l'année d'après, c'est-à-dire en 2026 et 2027, qui seront visibles pas très loin de la France. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots, Ludwig ?
Oui, les éclipses totales, c'est-à-dire les éclipses où on voit la couronne, ne sont visibles que sur une toute petite partie de la Terre. Nous avons la chance qu'en 2026, le 12 août, il y aura une éclipse totale qui sera visible entre l'Islande et le nord de l'Espagne sur une petite bande qui passe en particulier dans la région de León et Burgos en Espagne, une région accessible, et à cet endroit-là, peu avant le coucher du soleil, qu'on devrait voir apparaître, s'il fait beau, l'éclipse et la couronne solaire.
Il faut quand même dire, tu dis que c'est visible en Islande, de l'Islande à l'Espagne, mais pas en même temps. Ça commence en Islande, c'est visible en Islande de quelques minutes, et ensuite, petit à petit, ça se déplace et ça arrive en Espagne le soir.
C'est cela, l'ombre de la Lune se déplace sur la surface de la Terre. La totalité dure quelques minutes, et donc on voit apparaître l'ombre de la Lune, et à un certain moment, il fait presque nuit, pas tout à fait, et voilà l'éclipse et la phase de totalité qui nous permet de voir la couronne.
C'est-à-dire qu'on voit la Lune qui cache le Soleil en partie, donc avec un croissant qui est de plus en plus petit, puis à la fin on voit juste un point lumineux, et quand ce point lumineux disparaît, c'est là qu'apparaît la couronne.
C'est cela, et on voit donc la baisse de luminosité sur Terre et la couronne, et on voit des étoiles, comme si c'était pas la nuit profonde, mais comme si c'était le début de la nuit.
Et les animaux s'en rendent compte.
Les animaux s'en rendent compte, les oiseaux se taisent et les humains disent « Ah !».
Et donc, si les gens ne peuvent pas aller voir cette éclipse du 12 août 2026, il y en a une autre l'année suivante. C'est de la chance, ça.
Il y a une deuxième chance, cette fois-ci à plus grande distance, mais dans le sud de l'Espagne, en Andalousie, elle sera visible, et dans le nord d'Afrique, elle sera totale là aussi. C'est le 2 août 2027.
Alors maintenant, peut-être que tu peux nous reparler de cette couronne solaire un petit peu plus. Donc, c'est vraiment une zone qui entoure le Soleil, qu'on ne voit pas en général, et qui est très chaude, comme tu nous l'as expliqué la semaine dernière, qui est très chaude, 1 million de degrés, alors que la surface du Soleil est 6 000 degrés. Tu nous as aussi parlé du fait que le Soleil est bouillonnant à la surface, et que ça crée de l'énergie, mais qu'on ne sait pas comment cette énergie, est-ce que c'est cette énergie qui chauffe la couronne solaire ou pas, et comment ça se fait. Et donc j'ai cru comprendre qu'il y avait aussi un effet magnétique. Donc est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur le champ magnétique du Soleil? Il y a un fort champ magnétique, je crois, dans le Soleil, est très variable.
Il y a un champ magnétique dans le Soleil, et une éclipse est un moyen de le mettre en évidence. Pas forcément à l'œil, mais quand on regarde une photo lors d'une phase de totalité, on voit la couronne, et la photo a en général été prise avec des filtres qui mettent en évidence les couches externes, qui montrent la couronne sur une plus grande distance. Et là, on s'aperçoit que la couronne n'est pas une sphère, comme la photosphère, comme la sphère de lumière. Le Soleil nous apparaît rond, quand on regarde une photo, mais la couronne n'est pas ronde, elle est irrégulière, il y a des régions brillantes, il y a des régions moins brillantes, et le mécanisme qui fait cela, c'est le champ magnétique. La couronne est constituée de particules électriquement chargées, notamment des électrons. Les mouvements de ces particules sont guidés par le champ magnétique, comme l'imaille de fer dans l'expérience de l'école. Vous savez peut-être qu'on visualise des champs magnétiques en d'un aimant, le champ magnétique d'un aimant, en mettant une feuille de papier dessus et saupoudrant de l'imaille de fer. Et on voit apparaître le fait que les éléments de l'imaille de fer s'allongent le long des lignes de force du champ magnétique. Et de la même façon, les électrons et les protons suivent les lignes de force du champ magnétique dans la couronne. Et ça crée cette irrégularité de la couronne par rapport à la photosphère qui est parfaitement ronde.
Et ce champ magnétique, en fait, il y en a qui part du Soleil, qui revient, ça fait des boucles, et là, il y a aussi ce qu'on appelle des protubérances, et puis il y en a d'autres qui partent dans l'espace.
Tout à fait. Les protubérances, c'est de la matière relativement dense qui est suspendue au-dessus de la surface du Soleil, et le processus qui empêche la matière de tomber sur le Soleil, c'est de nouveau le champ magnétique. Et donc là, on voit effectivement qu'il y a des boucles de champ magnétique. Les deux pieds des boucles, si j'ose dire, sont ancrés à l'intérieur. Et dans d'autres régions, il y a un pied qui est ancré à l'intérieur et l'autre pied est ancré quelque part dans le système planétaire, dans une planète. En tout cas, là, la matière peut s'échapper librement. Nous avons parlé du vent solaire, qui est la conséquence de l'atmosphère chaude. Et à grande altitude, le vent solaire emmène tout le champ magnétique dans l'espace interplanétaire. Le champ magnétique n'est pas assez fort, pour maintenir, pour retenir la couronne au Soleil.
Et alors, sur la surface du Soleil, il y a des effets du champ magnétique, ce qu'on appelle les taches solaires.
Les taches solaires, c'est des régions sombres qu'on a commencé à étudier avec des lunettes, initialement en regardant fort imprudemment le soleil à travers une lunette.
Ah oui, parce qu'il faut faire très attention, ça brûle les yeux.
Ça brûle les yeux, c'est-à-dire l'observateur, au début du XVIIe siècle a noté que ça faisait quand même un peu mal aux yeux. Et il ne faut pas faire cela. Mais on a ensuite développé des techniques plus sophistiquées. Pour observer des taches qui étaient à la surface du Soleil. Le Soleil dit des taches relativement petites par rapport au diamètre de 1,4 million de kilomètres, mais qui ont quand même la taille de la Terre. Et ces taches sont sombres et on a constaté au début du XXe siècle, c'est là que des champs magnétiques très intenses émergent de l'intérieur du Soleil et se poursuivent dans l'atmosphère et la couronne.
Et ça change tout le temps. Donc ça change tout le temps. D'ailleurs, quand on voit plusieurs éclipses de soleil à plusieurs années d'intervalle, on s'aperçoit que la couronne n'est pas la même, n'a pas la même forme. Et ce champ magnétique, en fait, il varie en permanence. Et il y a même un cycle d'à peu près 11 ans, des périodes où il y a beaucoup de taches solaires et des périodes où il n'y en a presque pas.
Oui, les 11 ans, c'est une durée moyenne entre deux moments successifs où il n'y a pas de tache solaire pendant des mois ou des semaines et des mois. Et entre deux, il y a des périodes où il y a des taches solaires sur le Soleil et nous sommes actuellement à la fin d'un maximum du Soleil, donc avec relativement un nombre relativement grand de taches sur le Soleil qu'on voit avec un instrument adéquat, on ne les voit pas à l'œil nu en général.
Donc en fait, on peut observer les éclipses totales de soleil, la couronne à ce moment-là proche du soleil. Et il y a des instruments qui ont été développés pour observer cette couronne solaire, même en dehors des éclipses, qu'on appelle les coronographes.
Oui, au 19e siècle, on a fait un tourisme scientifique vers les éclipses très très intense, parce que les éclipses totales étaient le seul moyen d'observer la couronne solaire. Et les chercheurs ont entrepris de nombreuses tentatives de créer une éclipse artificielle. La personne qui a vraiment réussi était Bernard Liot, et c'était une très grande réussite scientifique. Le pic du Midi était la situation idéale pour essayer et finalement réussir avec grand succès Et aujourd'hui, le coronographe avec le principe de l'IO est un instrument qui peut être embarqué dans l'espace et on l'a vu depuis les années 1970 avec la station spatiale américaine Skylab qui nous a montré une couronne complètement inattendue, très très dynamique. Et depuis 1995, il y a un instrument, un satellite de l'Agence spatiale européenne en coopération avec la NASA, avec des instruments de coronographie qui nous montrent la couronne sans interruption. Donc, alors que lors d'une éclipse totale, on voit la couronne pendant quelques minutes. Là, on voit la couronne, si on exagère un peu, depuis 1995,
150
ans. Cet instrument s'appelle le Solar and Heliospheric Observatory, SOHO.
Et en plus, on voit la couronne là avec ce qu'on appelle des grandes éjections coronales, c'est-à-dire des éjections du Soleil, la couronne qui se développe extrêmement loin du Soleil.
Oui, et cette couronne est très dynamique parce que le champ magnétique du Soleil est ancré dans une sphère de gaz qui est en ébullition permanente, on le voit à la surface. Et ce champ magnétique n'est pas si stable que le champ magnétique d'un aimant qui est une barre de fer qui, d'un jour à l'autre, ne change pas du tout. Le champ magnétique du Soleil change d'un jour à l'autre et même à l'intérieur de quelques heures, quelques minutes parfois. Et ça crée, entre autres, des espèces d'instabilité où le champ magnétique de la couronne se déconnecte et part dans l'espace interplanétaire avec la matière qu'il confine. Et c'est ce qu'on appelle des éjections de masse. Et on a parlé de bourrasques dans le vent solaire. Et les éjections de masse sont donc des instabilités du champ magnétique de la couronne solaire qui éjecte de la matière dans l'espace interplanétaire.
Et il y a donc de cette matière qui nous arrive chez nous, sur la Terre. Et je crois qu'on va en reparler la semaine prochaine. Si tu veux bien, tu reviens avec nous la semaine prochaine.
Avec grand plaisir.
Merci, Ludwig.